C'est un artiste singulier, autodidacte, à fleur de peau, épris de liberté et assoiffé de rencontres, toujours sur la route. Il est comme un papillon qui butine partout.
Chantal Laureau.
Bonjour Cali.
Bonjour.
On est très heureux de vous recevoir en présentiel dans ce studio. Vous êtes auteur, compositeur, interprète, musicien, écrivain et poète. Vous publiez aux éditions Invenit dans la collection Le Chant des Possibles, Éparpillé, un très joli recueil de poésie. D'abord, pourquoi ce titre, Éparpillé? C'est vous qui l'avez choisi?
Non, alors disons que c'est le hasard total, c'est-à-dire que Éric Poindron, qui est l'organisateur de cette collection, le Chant des Possibles, m'a dit, mais je suis sûr que t'écris des choses, des poèmes quelque part. Je dis, mais bon, j'espère qu'on écrit tous. Moi, j'écris depuis toujours beaucoup, beaucoup de choses. Je suis très bordélique, donc je les perds. À droite, derrière des bureaux, derrière, sous des livres, des pages, comme ça. J'ai dit, tout ça est très éparpillé. Il m'a dit, ben voilà, tu viens de trouver le titre du livre éparpillé. Ça me convient bien.
Alors, est-ce que ce livre est comme un puzzle? Si l'on additionne tous ces petits moments de vie, ces instantanés du quotidien, fragments de voyage, ces nuits de vertige, cette nostalgie des disparus, c'est votre portrait qui apparaît en filigrane?
Peut-être que oui. Oui, sûrement oui. Parce que, peut-être même par rapport à la chanson où je vais parfois très loin dans le quand je raconte ma vie, ça reste quelque chose de quoi qu'il arrive de léger, une chanson, et le ces textes là ça me permet, on a une vie privée, une vie publique, une vie secrète, et ça me permet de me promener dans ces trois champs là quoi. Et qu'est-ce qui est secret, qu'est-ce qui est privé, qu'est-ce qui est public. Et en tout cas, le tout, les personnes qui m'aiment bien, si elles écoutent mon album Cavale qui est arrivé là, si elles regardent les courts-métrages que j'ai réalisés par rapport à tout ça, et si elles lisent ce livre-là, entendront battre mon cœur. Ouais.
Alors, est-ce que vous avez écrit ces textes au long cours, un peu comme un journal, puisque vous y confiez, vous venez de le dire, des moments très intimes, hein, sur la paternité, sur l'amour, sur la séparation, bref, sur les choses de la vie. Donc, vous avez fait un travail d'assemblage, ou bien vous avez quand même écrit spécifiquement pour étoffer tous ces petits textes que vous aviez déjà sous le coude?
Disons que je ne me rendais pas compte que j'avais des textes sous le coude. Je produis par vibration. Et quand il y a des vibrations comme ça, je peux voir un très grand film qui me plaît, qui me touche, comme tout le monde, pendant 20 minutes après, ou une heure, ou deux heures, on est transporté, on est ailleurs. Je profite de ces moments d'émotion pour attraper les mots qui arrivent et écrire. Le sourire d'un enfant me donne beaucoup de choses aussi, et j'aime bien, plutôt que de me dire tiens, il y a une page blanche, il faut écrire quelque chose, non, j'aime bien la quête de la vie, attraper des moments fous, singuliers ou tout à fait ordinaires, mais empreint d'une vibration qui me donne ces mots-là. Donc non, je me rends compte à la lecture du livre qu'il y a des textes. Je parle de mon fils qui a 23 ans, et je lis un texte où
il est bébé.
Il vient de naître, donc je me dis, ce texte a 23 ans. Là, on parle de maman, là, sur ce texte. On peut le dater, puisque je dis, tu aurais 60 ans aujourd'hui. Donc aujourd'hui, elle n'aurait pas 60 ans, là, elle aurait beaucoup, beaucoup plus. Donc on peut dater tout ça. Après, il y a des textes beaucoup plus récents, et des choses qui sont arrivées sur la fin comme ça. Mais j'aime bien ce mélange-là, de toutes ces époques, ma petite vie.
Alors, est-ce que vous pouvez justement nous lire Maman?
Maman, 3 janvier de la nouvelle ère. Tu aurais 60 ans aujourd'hui et papa en aurait 62. Nous serions réunis pour ce jour de fête. Tes enfants, tes petits-enfants, tu plaisanterais sur le temps qui passe. Le temps court comme un élan. Sur la nouvelle ride que tu aurais surprise devant ton miroir ce matin, alors papa te soufflerait tendrement quelque chose à l'oreille. On rigolerait tous ensemble. À la fin du repas, on se prendrait tous par la main, en grand cercle. Papa dirait de sa voix grave qu'il faudrait, dans les heures difficiles, toujours se rappeler ce moment-là. Il t'aurait offert une robe rouge, moi une photo Harcourt de Gilbert Bécaud, mon fils en dessin.
Cali, vous avez perdu votre maman quand vous aviez 6 ans. Vous avez raconté que vous avez eu, malgré tout, une enfance heureuse dans votre village des Pyrénées-Orientales, au sein de votre tribu, avec vos copains. Mais en même temps, votre mère est très présente tout au long de ce recueil. Ça veut dire que la blessure de sa disparition n'est toujours pas refermée ?
Oui, comment refermer une blessure ? On perd des proches et puis on perd des... Mais je suis tombé du nid trop tôt, quoi, parce que 6 ans, c'est... Qu'est-ce qu'il reste comme souvenir des bribes de... J'ai ce souvenir du dernier moment où je suis tout petit, je ne sais pas la mort, l'âge où on ne sait pas le mensonge, ni la trahison, ni la mort, et elle me prend dans ses bras et elle dit qu'elle m'aime, quoi. C'est la dernière fois que je la vois. J'ai ce souvenir-là. J'ai ce souvenir de une porte qui se ferme. Je suis chez un grand-oncle et il arrive dévasté, il ferme la porte comme ça et j'entends parler à sa femme, il dit Mireille est décédée. Décédée, je ne sais pas ce que ça veut dire à cette époque-là. Donc tout ça, ce sont des souvenirs que j'ai au fond de moi, mais en même temps, ma maman est toujours là. Je l'ai vue, ma mère, je l'ai vue, elle est, on pense ce qu'on veut, on croit en des choses. Moi, elle est venue à côté de moi, un soir, près de mon lit, et elle est restée de longues, longues minutes, une lumière. Elle m'a souri. Et dans son sourire, j'ai lu « Tout va bien se passer, Bruno. Tout va bien se passer. » Donc ce sont des choses qui m'aident à vivre, parce qu'elle est toujours là. Et en même temps, écrire des chansons sur maman, écrire des romans sur maman, écrire... elle est vraiment toujours là. C'est très très présent. Ce livre-là, quand il est chez quelqu'un, je me dis que ma mère est chez quelqu'un. Et au-delà de ça, je lui parle beaucoup, en fait. Parce que j'ai pas eu des conseils que donne une maman. J'ai pas eu tout ça. Quand j'ai des amis qui s'engueulent avec leur maman, qui peuvent ne plus se voir pendant quelques temps, je les appelle, je les harcèle et je leur dis non, 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 on a une maman. Tu pardonnes tout, quoi qu'elle ait fait. Et tu vas la prendre dans tes bras. Et ça a marché récemment pour un ami. Et en pleurant, il m'a rappelé, il m'a dit, mais tu as raison, en fait. Ouais, je l'aime, ma mère, ouais.
Cali, vous évoquez également la figure de Giuseppe Caliciuri, je sais pas si je prononce bien.
Oui, oui, parfait.
Votre grand-père italien, membre des brigades internationales, il s'y était engagé pour combattre Franco. Vous évoquez aussi votre grand-père maternel, Pépé Henri, dans un poème, vous écrivez « Mon grand-père n'a pas vu la chute du mur et c'est tant mieux. Mort en 88, il était communiste jusqu'au bout des ongles, dans chacun de ses os. Maxon boxeur, il en a pété des nez dans les réunions embrumées, où l'on pouvait encore cracher la fumée à la gueule des autres. C'était logique avec un tel héritage que vous soyez devenu un artiste engagé.
Ouais, il y a l'atavisme évidemment, mais c'est, disons que je pense souvent à ça. Quand j'avais 18 ans, 17, 18 ans, ce passé-là ne m'intéressait pas plus que ça. J'étais avec ma meute d'amis, on pensait aux filles, on pensait à la musique. Je pense toujours aux filles, à la musique, mais on était, et mon papa nous a, quand il est parti, nous a laissé une lettre aux quatre enfants, une lettre qui justifiait sa vie. Et il nous a, sur cette lettre, on peut lire, ma vie, je l'ai dédiée à mon père, ce héros, qui est né à San Stefano en 1900, comme vous le disiez, qui a traversé les mers, les océans pour aller défendre la cause de Sacco e Vanzetti, qui est allé faire exploser un institut en Algérie qui représentait l'Italie et le fascisme de Mussolini. Il voulait que les pays ne subissent pas ce qu'ils subissaient avec Mussolini. Alors il y avait une rumeur qui courait dans la rue ou un journal qui traînait. Et qui disait, il y a des opprimés quelque part dans le monde. Il prenait son petit sac à 20 ans, quoi. Et il allait se battre. Il allait les défendre. Ça l'a conduit jusque sur le front de Brunete, où il s'est battu. Il a été blessé, soigné par une doctoresse qui était ma grand-mère, Maria Pilar. Et mon père est né sous les bombes à Barcelone. Donc tout ça, après, je l'ai en moi et je me dis que c'était une poignée d'années. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le combat... ils ont fui comme les républicains, de ces milliers de républicains espagnols, vers la France, accueillis dans des camps de souffrance. Argelès, Saint-Cyprien, il y avait Mende, il y a beaucoup de choses comme ça, de blessures, de cicatrices, accueillis comme des chiens, quoi, voilà. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui le combat aussi est axé sur les migrants, ces gens qui fuient un pays en guerre, qui fuient des exactions, qui fuient la mort, et qui se disent que peut-être un pays comme la France, les droits de l'homme, pourrait les sauver et les guider vers une vie meilleure. C'est pour ça que je que je parle de Cédric Herrout et de tous ces citoyens solidaires qui sont tellement importants parce qu'ils risquent la prison tous les jours en sauvant des vies humaines.
Pour délit de solidarité.
Exactement.
Dans ce livre, vous n'évoquez pas seulement vos proches, vous rendez hommage à des disparus qui ont compté pour vous. Il y a Marilyn, par exemple, Marilyn Monroe. Vous pouvez nous lire Westwood, un autre texte de votre recueil oui. Éparpillé.
Westwood. Le cimetière de Westwood, on a cherché longtemps, on ne trouvait pas. Les filles s'amusaient à courir entre les plaques posées comme collées dans l'herbe. Il est chouette ce cimetière. Pas trop grand, tout comme il faut. Il y a Los Angeles tout autour, et ce petit carré d'herbe là, avec un grand arbre au milieu. J'ai demandé à ce type qui avait tiré un long tuyau et qui arrosait le trou. Il a tendu le bras vers là-bas sans même regarder. On s'est approché sans mot. Petit pincement au ventre quand même. La plaque est discrète. Marilyn est rangée comme ça, dans la mort. À côté d'autres morts. Poppée a dessiné un cœur du bout de ses petits doigts sur le marbre. Et puis, j'ai posé ma main à côté de la sienne et puis on a fait comme les autres. On a glissé une pièce dans l'entrebâillement, entre le mur et la boîte. Rien de plus. Marilyn. Une vie autre. Ultime, tragique, dingue. Une vie lancée jusqu'à l'éternité. Pour ça, tout ça pour ça, pour cette tombe derrière une plaque. Marilyn Monroe, 1926-1962. À côté d'autres plaques. Sur le bord d'un petit carré d'herbe, tout près d'un arbre. Au milieu de Westwood, au cœur de LA. C'est bête, mais tu vois, ça me rassure. Je sais pas, hein. Ça me rassure.
So good in a crowd, but when you get him alone, you'd be surprised. He isn't much at a dance, but then when he takes you home, you'd be surprised. He doesn't look like much of a lover. Don't judge a book by its cover. Face of an angel, but there's a devil in his eye. He's such a delicate thing, but when he starts in the squeeze, you'd be surprised. He doesn't look very strong, but when you sit on his knee, you'd be surprised. At a party or at a ball, I've got to admit he's nothing at all. But in a Morris chair, you'd be surprised.
You'd be surprised, Marilyn Monroe, dans De Vive Voix sur RFI. Nous sommes toujours en compagnie de Cali pour parler de son recueil de poésie éparpillé qui vient de paraître aux éditions Invenit. Cali, aux États-Unis, la poésie est un genre très populaire, ce qui n'est pas vraiment le cas en France. Comment vous l'expliquez ?
Alors, c'est vrai, on reçoit beaucoup de poésie, on lit, on furette, on cherche les poètes, surtout ceux de la Beat Generation. Moi, c'est ça, ça me touche beaucoup, les Brotigan et tous ses amis, les Bukowski. Ce sont des poèmes, on parle de vibrations, des vibrations fortes qui résonnent et qui vont résonner pendant des années et des siècles encore, c'est sûr. Alors comment je l'explique ? Je me dirais que le mot poésie ici fait peut-être peur. Est-ce qu'on n'associe pas le mot poésie à la récitation qu'on nous obligeait à apprendre à la petite école ? Ouais. Pourtant ce mot est très très beau. J'aurais aimé appeler une de mes filles poésie. Je trouve ce mot magnifique, mais peut-être faut-il encore une fois trouver autre chose. Je parlais avec ma fille des mots là qui évoluent. Je m'amuse des fois quand elle me fait un coup en douce, je la traite de félon. Elle me dit « félon », mais pourquoi tu me dis « félon » ? J'adore ce mot « félon ». Alors je lui dis, tu sais, « félon », c'est le traître, quoi, le félon. Une époque, on disait « félon ». Et puis après, on a dit quoi ? On a dit « la balance », quoi. Et aujourd'hui, vous dites « pouki ». les jeunes, la Pouki. Voilà.
Donc c'est comme la chanson d'Aya Nakamura.
Alors peut-être que c'est aux jeunes de chercher le mot qui va déclencher l'ouragan et qui va ouvrir les vannes et pour que tous les jeunes se précipitent vers ce souffle essentiel, quoi, qu'est la poésie.
On a entendu tout à l'heure Westwood. Un voyage aux États-Unis, c'est forcément une source d'inspiration.
Oui, oui, oui. Je suis amoureux de New York. J'ai vécu un petit bout là-bas et je parlais là sur le Westwood. On est allé à LA, évidemment sur les traces de ce, sur les fantômes, quoi, qui en musique beaucoup. Moi, sur à New York, je me promenais. J'ai eu la chance de chanter avec Patti Smith. Alors je suis allé à Saint Mark's Place voir exactement là où ça se passait, le CBGB. J'ai pu rentrer dans le CBGB. Il n'existe plus aujourd'hui. C'est terrible. Hein, ils ont pas pu le protéger. Mais j'ai pu l'après-midi être au milieu de ces tables. J'ai pu aller voir les toilettes parce que j'avais lu ça quelque part, qu'il y avait des concerts punk fous, les Ramones, les tout ce qu'on veut. Ils étaient tous là. Et puis on devait traverser la scène pour aller aux toilettes derrière, quoi. Donc j'ai traversé cette scène une après-midi. Comme ça, c'est merveilleux. J'aime beaucoup, suivre des traces. Il y a toujours des odeurs, et une inspiration folle. Et on se dit, waouh, la personne que tu aimes. Je vais voir moi John Lennon tout le temps, quoi. Je vais devant le Dakota. Je vais devant ce lieu incroyable parce que c'est là où tout s'arrête, quoi, et où tout démarre quelque part aussi après. Ça me touche, ouais.
Vous parliez de Patti Smith. Est-ce que vous pouvez nous lire, je vais encore vous mettre à contribution, ce souvenir de New York?
C'était un soir d'automne à Central Park. Le ciel était rouge, déchiqueté, comme griffé par la patte d'un tigre géant. C'était un soir d'automne à Central Park. Le ciel avait quelque chose de bouleversant, comme quand tu passes la brosse dans tes cheveux le soir face au miroir devant ta table de beauté. C'était un soir d'automne à Central Park, le ciel était sauvage, comme le visage de Patti Smith, saisi par Mapletoe. La photo avec la chemise blanche. Que t'es tanné sorti, que t'es toujours aussi joli. C'est un bon gars qui est avec toi. J'ai entendu ça. J'ai hésité longtemps, mais je t'écris. Moi j'ai pas pu quitter Paris. J'aime toujours pas cette ville, tu vois. Qu'est-ce que j'aimerais pas mourir là. J'ai arrêté de boire, tu sais. Ça fera un an le 14 janvier. Je vois des gens qui m'aident, c'est extra. J'ai une vraie famille autour de moi. Paraît que tu vas te marier. Est-ce que tu me laisserais t'envoyer un petit quelque chose? C'est trois fois rien. Mais si tu veux bien, moi j'y tiens. J'ai retrouvé les chaussures qui te plaisaient. C'était les rouges, je pouvais pas me tromper. Ton sourire ce soir-là m'a mis à genoux. Devant cette vitrine, on était comme des fous. Tu voulais faire de moi une star du rock'n'roll. Moi j'étais un Jésus à la gueule de cow-boy. Le premier soir où je t'ai emmené dîner, j'ai su que pour toi, je pourrais tout quitter. Corbeau sauvage, est-ce que dans ton ventre y a toujours cette rage? Ça te rendait jalouse les gens qui se tuent. Moi je t'aimais même quand j'avais trop bu. À Paris le ciel est toujours enrhumé. Y a même plus une lune vers qui hurler. Je repasse des fois devant notre Chelsea. Et ça me fait plus mal, j'ai une autre vie. Tu verrais comme il est bon mon garçon. Il ramène plein de bonnes notes à la maison. J'aime ma femme, elle a su étrangler les fantômes qui voulaient me noyer. Est-ce que tu lui as raconté à lui aussi que t'as jamais pu devenir ce signe pourri? J'ai jamais pu relire le vilain petit canard. Elle est vraiment tordue cette putain d'histoire. Tu me manques, mon bébé. Tu me manques. Cherche ton rire, tes larmes qui glissaient sans prévenir. Oh, 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 oh.
Caval, extrait de l'album éponyme de Kali, album sorti le 13 mars, juste avant le confinement. C'était extrêmement frustrant, j'imagine, pour vous.
Oui, surtout avec ce nom pareil, Caval, et rester enfermé après. Mais je crois encore, ce disque est toujours d'actualité, puisqu'il vient de sortir quoi, quelque part, il a été juste congelé. Et nous sommes partis sur la route le défendre. On ne peut plus le défendre pour l'instant. Mais ça va continuer, ça va venir, ouais.
Est-ce que le public qui vous lit est le même que celui qui vient vous voir en concert, qui vous écoute ?
Il y a beaucoup de gens qui viennent me voir en concert et qui vont acheter les livres et acheter les romans et qui sont allés se procurer ce livre-là, comme ça. Je les remercie pour tout ça. C'est assez troublant sur les salons du livre. On est assis à côté du Goncourt de la biographie. Magnifique. Et il y a deux, trois personnes qui sont venues le voir, quoi, dans la journée. Moi, j'avais des files devant moi parce que j'étais chanteur. Et ce qui m'a touché, c'est qu'il y a une dame qui est venue me voir. Et elle écoutait les gens parler, qui parlaient de musique avec moi. Elle a acheté mon livre et elle me dit, mais vous êtes chanteur? Voilà. Je l'ai prise dans mes bras, quoi. C'est-à-dire, elle a acheté mon livre pour mon livre. C'était bien.
Est-ce que vous diriez que vous êtes finalement un poète à plein temps?
Oh, j'espère que... On pourrait être à plein temps, je ne sais pas, mais je sais que la poésie est partout. Donc on peut tous décider d'être poète quand on tend les bras et qu'on regarde le soleil, on peut être poète, ouais.
Merci beaucoup Kali d'avoir été notre invité.
Merci.
Éparpillé vient de paraître aux éditions Invenit dans la collection Les Chants des Possibles. Et maintenant, comme chaque mercredi, nous avons rendez-vous avec la puce à l'oreille de Lucie Bouteloup.
L'oreille.
Bonjour Lucie.
Bonjour Chantal. Alors aujourd'hui, la puce se penche sur une formule de politesse qu'on utilise plus volontiers à l'écrit qu'à l'oral. Alors je vous saurais gré de prêter une oreille attentive aux explications de Julien Soulier. Je vous saurais gré, justement, ce mot gré. De quoi s'agit-il au juste? Qu'est-ce qu'il veut dire? Et puis le verbe, doit-on dire je vous saurais? Où je vous saurai. Autant de questions qui méritent bien un éclaircissement, et c'est pas nos apprentis linguistes qui nous diront le contraire.
Peut-être que c'est je vous en saurai gré, parce que on dit merci de votre bon gré, et donc peut-être que c'est quelqu'un qui est généreux, qui a fait une dette et qui a reçu du gré, parce que moi gré ça me fait penser à blé, et blé ça peut aussi parler d'argent.
Moi je dis serai gré, c'est le verbe être, et je vous en serai gré pour être reconnaissant, pour lui redonner la même faveur.
Ça veut dire un peu avoir pitié de quelqu'un, par exemple il s'est cassé le bras, tu dis je vous en serai gré.
Je vous en saurai gré parce que... Non, pardon. Je vous en saurai gré dans le verbe savoir. Peut-être que gré, c'est un nom d'une poésie et donc je connaîtrai cette poésie. Donc peut-être que ça veut dire quelqu'un qui veut rejoindre un club, sauf qu'il faut qu'il connaisse la phrase par cœur, donc il dit je vous en saurai gré. Je vous en saurai gré et après il la récite. Je vous en saurai gré.
Pas facile, hein. Je vous en saurais, je vous en saurais, le verbe être ou le verbe savoir. Alors, Julien Soulier.
Oui, bah.
Roulement de tambour.
Oui, bah, il faut quand même dire qu'ils sont formidables parce qu'il y a beaucoup d'inventivité, il y a de la poésie, alors que là, pour le coup, on tombe sur une expression qui a un côté un petit peu administratif, hein. Cette expression-là, c'est un peu la reine des mails et des missives. Je vous saurais gré de bien vouloir. Voilà.
Oui.
Un côté un peu empoulé, on va dire.
C'est une expression qu'on utilise essentiellement à l'écrit.
Hein. Oui, essentiellement à l'écrit, par politesse, une espèce de formule.
Ou alors
de
dans
politesse.
Un langage très très emprunté.
Oui, c'est un côté un peu administratif, un peu revêche même, hein, c'est pas forcément très agréable. Mais là, j'avoue que nos jeunes participants ont donné un petit coup de jeune et un petit coup de poésie à cette expression un peu empruntée, un peu empesée.
Alors, on va procéder par étapes, puisqu'il y a cette difficulté avec le verbe.
Effectivement, le problème en français, c'est qu'on a le verbe savoir et le verbe être, qui au futur et au conditionnel sont des paronymes, c'est-à-dire il n'y a qu'un son qui les différencie, et en plus ces deux sons sont très proches. Je vous saurai ou je vous serai. Eh bien, c'est je vous saurai, le verbe savoir.
Du verbe savoir, donc.
Du verbe savoir, effectivement. Donc, il y a cette première difficulté-là. La deuxième aussi, c'est qu'en général, on le met au conditionnel, comme c'est une formule de politesse. Hein. Vous savez, quand vous allez chez la boulangère, vous Enfin, moi, je ne dis pas je veux une baguette, un côté un peu rentre dedans, mais je voudrais une baguette. Voilà. Donc, je vous saurais gré à yes au conditionnel. C'est déjà un petit peu plus correct, un petit peu plus poli. Voilà. Et cette expression est rendue un peu difficile par le fait que le mot derrière, ce gré comme ça, G-R-E.
On ne sait pas très bien ce que c'est.
C'est un mot qui est très ancien. Le mot gré, il est apparu au Xe siècle, donc c'est un mot qui a plus de 1000 ans. Et comme certains de ces mots, eh bien, il accuse un petit peu son âge.
C'est un mot qu'on retrouve quand même dans l'expression bon gré, mal gré, de gré ou de force.
Exactement.
Ou alors de mon plein gré.
De mon plein gré. Ou comme disaient les guignols, à l'insu de mon plein gré. Voilà, donc c'est le même radical, c'est le latin gratum qui voulait dire agréable, aimable, reconnaissant. Donc le gré, à l'origine, au Moyen-Âge, le premier sens, c'est le sens latin, c'est le consentement.
Reconnaissant, ensuite, donc on est déjà dans l'idée de je vous saurais reconnaissant.
Exactement. Et puis à partir du 11e, effectivement, on passe du consentement à la gratitude. Et l'expression apparaît savoir bon gré à quelqu'un, c'est-à-dire lui montrer une certaine reconnaissance, qui deviendra ensuite au 13e savoir gré. Et donc le mot gré s'est un petit peu perdu, enfin au point de vue du sens, on a un petit peu oublié ce qu'il signifiait, et ça s'est figé sous la forme je vous saurais gré, et on l'emploie quasiment plus que dans ce sens-là et dans les expressions que nous avons mentionnées.
Mais pourquoi c'est le verbe savoir et pas le verbe être ?
Gré, c'est pas reconnaissance, c'est reconnaissance. C'est-à-dire, on n'est pas de la reconnaissance. On montre, on sait de la reconnaissance à quelqu'un, en fait. On pourrait dire, effectivement, je suis reconnaissant, je vous serai reconnaissant. C'est peut-être là, d'ailleurs, que...
La confusion,
effectivement. Mais gré est un nom et non pas un adjectif. Donc, on sait de la gratitude, on montre de la gratitude envers quelqu'un. C'est une erreur très fréquente, hein, dans les mails, dans les écrits, ou quand on l'a dit, même si ça nous arrive, on a tendance à remplacer par le verbe être, qui peut-être s'imposera au fil du temps, on ne sait pas.
Donc, tenez-les-vous pour dit, auditeur. C'est le verbe savoir.
Dans vos prochains mails, pensez-y quand vous écrirez à votre patron, je vous saurais gré de me donner une augmentation.
Absolument,
je peux toujours rêver.
On peut toujours rêver. Donc aujourd'hui, le mot gré, on peut le retrouver caché à l'intérieur des mots comme agréable, comme vous le disiez tout à l'heure, malgré grâce, mais ça a aussi donné le mot gracias en espagnol.
Et en espagnol, c'est ça, quand vous dites gracias, vous montrez de la reconnaissance, de la gratitude envers quelqu'un.
Eh bien, Julien Soulier, je vous saurais donc gré de bien vouloir revenir dans la puce pour une autre expression. Je rappelle que vous venez de faire paraître un excellent ouvrage aux éditions First, etc., etc. Une bande dessinée qui revient sur l'histoire de la langue française et que je ne saurais que trop recommander aux auditeurs. À la prochaine donc, Julien, et puis merci d'être venu.
Merci, vous avez toute ma gratitude.
Merci Lucie, à mercredi prochain. Cali, qu'est-ce que vous avez retenu de cette puce à l'oreille?
Ah, que j'ai envie d'écouter la prochaine puce à l'oreille, quoi, parce que c'est... Non, c'est super, c'est bien. Alors c'est etc., etc., c'est ça, hein, il faut que je trouve cette bande dessinée... Ça s'appelle comme ça, etc., etc.
Exactement. Cali, vous aimez jouer avec les mots. On l'a peut-être pas dit assez en parlant de ce recueil de poésie éparpillé. Est-ce que vous pouvez nous en donner une preuve?
Écrire des poèmes assez courts pour en apprécier le début à l'heure d'approcher de la fin. Des poèmes assez courts pour savourer le début à l'heure de déplorer la fin. Des poèmes assez courts pour détester le début à l'heure de haïr farouchement la fin. Écrire.
Et moi, j'en lirai un autre. Donc, tu ne m'aimes plus. Donc, tu ne m'aimes plus. Tu ne m'aimes donc plus. Tu ne donc m'aimes plus. Tu ne m'aimes plus donc. Peut-on mourir juste en frappant sa tête contre un mur? On pense au haïku aussi japonais, parfois.
Ouais.
Si vous deviez donner votre panthéon des poètes, quel nom me donneriez-vous?
En France, je vous dirais Éric Poindron. Après, je vous dirais Thomas Strandstromer. Et puis après, je vous dirais... Leonard Cohen, je vous dirais Richard Brautigan et Victor Hugo, évidemment.
Merci beaucoup Cali. Donc éparpillé dans la collection Les Champs des Possibles est paru aux éditions Invenit. Merci à Guillaume Ploquin qui a réalisé cette émission et à Cécile Lavolo qui m'a aidé à la préparer. À demain et portez-vous bien.